Nous allons prendre dans l'Évangile selon Jean une lecture qui se trouve au chapitre 21. Nous sommes dans la situation d'après Pâques, d'après la résurrection, et dans le temps où Jésus se manifeste aux disciples. Je veux rappeler simplement qu'un peu découragé par les événements, imperceptibles, incompréhensibles, les disciples étaient retournés à leurs travaux, c'est-à-dire à la pêche et en bateau. Une fois descendus à terre de leur barque, ils virent un feu de braise. Lisons-nous au verset 9 du chapitre 21. Un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit, apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question, « Qui es-tu ?» Mais il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Verset 15. Après le repas, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et sur cette parole, il ajouta, « Suis-moi. » Mais Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait. Celui qui, au cours du repas, s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand il le vit, Pierre dit à Jésus, « Et lui ? Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » C'est à partir de cette parole qu'on a répété parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Et si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Chers amis, frères et sœurs, j'aime à rappeler la salutation que se donnent les chrétiens orthodoxes lorsqu'ils se rencontrent en ce temps pascal. Le premier s'adresse à son interlocuteur en lui disant ce que nous allons affirmer tout au cours de ce culte : le Seigneur est ressuscité. Celui qui vient d'être accueilli ainsi ne répond pas « bonjour » ou encore « merci ». Il ajuste sa propre réponse dans une véritable salutation. Dans le mot « salutation », il y a « salut ». Le salut, évidemment, parle de santé, mais le salut, c'est aussi prendre conscience, soudainement, d'avoir échappé à la mort. Je dois mon salut à quelque chose. La salutation orthodoxe implique, appelle la réponse de l'interlocuteur dans la même référence à l'événement de Pâques. Le Seigneur est ressuscité, dit le premier. Il est vraiment ressuscité, répond le second. Et dans la même affirmation de foi, ils ajoutent en communion, Alléluia, c'est-à-dire gloire à Dieu. Chers amis, plût à Dieu qui ne nous fait pas prisonniers de formules, plût à Dieu que nous puissions aujourd'hui, comme les jours suivants, garder en mémoire, en nous saluant les uns les autres, cette invincible espérance qui fait référence au Christ de la foi. L'évangile de Jean nous rapporte une discussion assez étrange à la suite d'un repas partagé avec les disciples. Une discussion entre Jésus et l'un de ses disciples, Pierre, en l'occurrence. Il nous arrive de nous méfier ou d'accorder peu d'importance aux discussions qui surgissent, comme on dit familièrement, entre la poire et le fromage. Et si au contraire, c'est après un bon repas que l'on était mieux à même de s'affronter ou de se risquer aux questions essentielles pour nos vies? Ici, cela semble être le cas. Le repas au bord de l'eau se poursuit par une question directe de Jésus. Il y a une première nécessité pour vivre, c'est de manger. Mais la seconde, tout aussi nécessaire, concerne les sentiments, les affects, les élans du cœur, en résumé, les raisons ou la raison de vivre. Et je voudrais redire que la Semaine Sainte ne se termine pas, elle s'ouvre par l'événement de Pâques. Parce que Pâques, c'est une porte ouverte, une ouverture, une libération. Elle ouvre des portes cette semaine, elle fait sortir de prison. Ce n'est pas pour rien qu'à nos yeux, le dimanche, c'est pas le week-end. Il est pour les chrétiens le premier jour de la semaine. La résurrection est le fondement de la foi chrétienne. Mais pardonnez-moi, je répète aujourd'hui une évidence. Alors revenons plutôt au texte de Jean. Comment résonne cet évangile aujourd'hui ? Je vais essayer d'évoquer 5 points, comme les doigts d'une main, 5 idées de ce récit conclusif de l'évangile de Jean. Il vous en reste encore d'autres pour cheminer vous-même dans votre réflexion. J'évoquerai avec vous cette notion du repas comme premier point. Mon second point, ce sera la déclaration d'amour. Mon troisième, la délégation de confiance. La quatrième, l'élection individuelle. Et la cinquième, la nécessité de refuser la comparaison. Premièrement, le repas. Vous voyez comme moi que l'évangile a un côté éminemment concret. On ne compte plus le nombre d'événements qui se passent là où l'on se rassasie. C'est ainsi que, d'ailleurs, fidèlement, la table qui est là a été dressée pour nous par notre sacristain Gérard. Il a dû veiller à apporter le pain, les coupes de vin et même la réserve afin que nous ne manquions de rien. La fraction du pain, qui veut dire le plus simplement du monde, manger ensemble sous le regard de Dieu, est devenue au cours du temps un repas considéré comme sacré. On a distingué qui avait droit d'y participer, qui en était exclu, et l'on a pris de mauvaises habitudes en s'approchant de la table, portée par une vague culpabilité, se croyant obligé d'avoir un air inspiré ou mal à l'aise. Fallait-il même être à jeun pour communier ? Autant de questions inutiles qui ne devraient pas se poser ainsi. La table est mise, on y est invité, et qui mange ensemble reste ensemble. Il s'agit d'une forme de corporatisme assumé, un esprit de corps. Participer, c'est assumer son corps. C'est reconnaître que l'hôte qui m'invite ce matin a donné sa vie pour que la mienne soit assumée, voulue et transfigurée. Il n'y a pas lieu de se préparer, comment dire, une dignité particulière pour venir manger. C'est au contraire la sainte scène elle-même qui est sanctifiante, qui rend ma participation à ce repas saint. C'est par la parole donnée que ma vie est anoblie par le crucifié ressuscité. Il a tout accompli. La première des communions est celle de la grâce. J'ai ouvert ce temps de culte ainsi. La grâce est toujours le premier mot, et la grâce est donc toujours le premier plat. La participation à ce repas est non négociable. Dieu nous y invite, et son invitation s'appelle Jésus-Christ vivant pour toi. Voilà pour le repas. Venons-en à la déclaration d'amour. Que l'amour de Dieu pour le monde soit une affirmation biblique, cela aussi, c'est une évidence. Rappelons-nous le même évangile de Jean qui fait cette déclaration si centrale, avec un effet à la fois interne à l'Église et externe. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais, frères et sœurs, chers amis, je sais aussi qu'une évidence biblique n'est pas forcément saisissable comme une évidence pour soi-même. Et l'entretien de Jésus et de Pierre juste après le repas est assez éloquent. Vous vous souvenez que dans la nuit où Jésus a été arrêté, Pierre, qui était plein de désir de le suivre partout, même en prison, l'a trahi. Et pas seulement une fois, mais trois fois. Il semblerait que ce dialogue entre Pierre et Jésus ait quelque chose de la mise au point. Parce que la grande œuvre du Christ doit impérativement se poursuivre, coûte que coûte. Ça, c'est la volonté du Père. Le Seigneur veut savoir de la bouche de Pierre si, malgré sa trahison, il a de l'amour pour lui. Et il ne lui demande pas, vous l'avez entendu, s'il sait par cœur son catéchisme, ni non plus s'il est infaillible désormais, et pas davantage s'il peut lui expliquer le pourquoi et le comment de la résurrection. Il lui demande simplement si ce fils d'une lignée humaine, fils de Jean ou de Jonas, fils qui s'inscrit dans une famille de la terre et de la mer, si ce fils du nom de Céphas, Pierre, Simon-Pierre, si ce fils d'une famille comme toutes les familles de la terre l'aime, lui, le crucifié, ressuscité. Voilà la question. Nous savons qu'il est difficile d'aimer, la chanson le dit, mais notre expérience de la vie nous le montre aussi. Pierre répond à la question par trois fois posée. Et l'insistance de Jésus alourdit la réponse de Pierre. Tu le sais d'avance. Pourquoi insistes-tu ? Jésus s'adressait à Pierre en lui parlant de l'amour agapé, amour d'un niveau supérieur. C'est ce verbe qui est employé pour désigner l'amour que Jésus porte à Jean, le disciple bien-aimé. Pierre répondait plus modestement, « Oui, j'ai de l'affection pour toi. » Et la troisième fois, Jésus n'insiste pas sur le sublime de l'amour agapé. Il va rejoindre Pierre là où il en est de ses déclaration possible, et il lui dira, m'aimes-tu, as-tu de l'affection pour moi, as-tu pour moi cet amour, affection. Et là, Jésus entend la réponse de Pierre, il l'entend comme probante, comme suffisante, et il lui adresse aussitôt cette extraordinaire vocation. Paix mes brebis. Autrement dit, conduis ceux qui m'aiment à trouver leur nourriture. Pour conduire les humains à la nourriture de la parole vivante, il n'y a qu'une seule exigence formulée par le Seigneur, la nécessité de l'aimer. Et nous lisons dans la Bible, premier épître de Jean, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ce qui veut dire qu'au regard de Dieu, notre amour pour lui est pure illusion s'il n'est pas une participation à son propre amour à lui dans le service des humains. Aimer le Seigneur, c'est donc aimer ce que nous côtoyons, parfois malgré nous, et parce que c'est difficile, car l'objectif est que le plus grand nombre accède à cette nourriture qui nourrit, une nourriture qui nourrit pour toujours. nous pouvons saisir ici cette notion d'un sacerdoce universel qui peut faire de chacun de nous des prêtres pour Dieu. Et voilà mon troisième point, la délégation de confiance. Est-ce que cette question posée à Pierre pourrait nous être posée à nous ? Et cette délégation pourrait-elle nous être confiée ? Certains diront tout de même, c'était Pierre, un apôtre et non des moindres. Soit, je suis d'accord. Pourtant, il y a une petite faille qui m'intéresse là. Pierre pense comme les hommes. Il demande, « Et Jean, qu'as-tu prévu pour lui ? Que lui arrivera-t-il ? » N'est-ce pas ainsi souvent que nous fonctionnons ? Que se passe-t-il pour l'autre, peut-être plus aimé, ou moins aimé, ou plus ou moins aimé ? La réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Je la résume, et c'est ainsi que ça me plaît. Que t'importe ? Ce que t'importe est l'occasion pour nous de comprendre qu'il est inutile de se rapporter à autrui, de nous interroger par rapport à autrui, comme si autrui était revêtu d'un label, d'un charisme, d'une appartenance qualifiante supérieure. En matière de foi, le référent, c'est Christ. La vocation de Pierre, la confiance qui lui est faite, est différente de celle de Jean. Jean qui rapporte les faits avec cette force de conviction. Chacun a sa part spécifique, qui est connue de Dieu seul. Pierre devra se contenter comme réponse à sa volonté de savoir au sujet de celui qui aimait peut-être plus, probablement mieux. Jean le bien-aimé, Pierre n'entendra qu'une seule réponse. Que t'importe, mais toi, suis-moi. La délégation de confiance se réalise par un élan, par une mise en marche pour suivre le Maître. Enfin, cette élection individuelle, quatrièmement, est moins une prédestination qu'une quotidienne invitation à se lever de nos tombeaux. Le tombeau de Pierre s'efface, Simon, aurait pu être celui d'être gagné par le découragement après avoir trahi le Seigneur. Il y a comparativement notre vie personnelle, la nôtre propre, avec ses misères présentes, ses amours incertaines, ses déceptions religieuses, ses violences d'aujourd'hui et ses menaces pour demain. Il semble que la vocation de Pierre ne le conduira pas à la facilité d'un tapis de roses tendres. Son avenir semble présenter de manière plutôt sombre. Il y aura donc un temps où il ne décidera plus. Alors, frères et sœurs, quelle richesse immense de pouvoir décider de vivre, puisque la bonne nouvelle demeure, elle est annoncée comme une lumière qui ne s'éteindra jamais. Dans son appel, dans l'élection individuelle en vue du service de ceux qu'il appelle de brebis, on est passé dans le texte des agneaux aux brebis. Ça veut dire que ce sont déjà un groupe plus combatif, plus mature, plus fini. Même si cette image bucolique est un peu éloigné de nos façons de vivre, mais image forte qui renvoie au seul bon berger. Dans son appel, en qualité de berger, le Christ confie, délègue, attribue à ceux qu'il aime et à ceux qu'il aime la mission immense d'être des passeurs de la parole. Parole qui remet debout, parole qui pardonne, parole qui guérit, parole qui nourrit. La mission paraît au-dessus de nos forces, je sais. Mon cinquième point, c'est d'éviter les comparaisons. Si nous sommes retenus dans l'appel qui nous est donné à chacun, c'est que nous n'avons pas encore vraiment renoncé aux comparaisons. Nous savons bien que si nous voulons sauter au-dessus d'un précipice, il faut éviter de regarder au fond, mais plutôt regarder au rocher sur lequel on va sauter. La force, c'est toujours Dieu qui la donne. Jean écrit ceci dans son évangile au chapitre 14. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclet, un autre défenseur, un autre avocat, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Et la suite, que va-t-il se passer ? L'évangile continue. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui s'attache à mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Quelle prodigieuse, extravagante promesse. À nous donc, chers amis, d'être toujours au cœur de l'action de nos vies, même si le désert autour de nous semble gagner du terrain. Le monde veut croire, et c'est pour le monde que nous voulons chercher et la vérité et la justice. Soyons des créateurs de bonheur. Notre époque est cruciale, notre temps est unique puisque c'est le nôtre, un temps qu'il nous faut encore inventer. Par le baptême, par nos baptêmes, nous vivons le signe de la mort et de la victoire du Christ. Mort et ressuscité avec lui. Mort et ressuscité, invité au banquet, au repas de la grâce. Il ne nous est pas demandé de croire à la résurrection comme une évidence extérieure à nous, mais comme un fait de notre propre expérience. Au même titre que l'apôtre Paul déclare dans l'Épître aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà un étrange partage, paradoxal. L'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, révèle à sa manière la possible expérience de ce partage. Et je terminerai là en citant Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. La porte à laquelle le crucifié ressuscité frappe, c'est la porte du cœur, le cœur de chacun. Et quand le cœur s'ouvre, c'est toujours le moment d'aimer. Amen.